On continue cette émission et nous accueillons à présent deux programmatrices, Karine Dastin, en charge de la programmation culturelle à la ville d'Amboise, bonjour.
Bonjour.
Et Aurélia Espinoza, coordinatrice en charge de la programmation culturelle au sein de la communauté de communes Gâtine-Choisy, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est l'intérêt pour vous de participer à ces journées, Karine?
L'intérêt, c'est la rencontre autour de projets artistiques, surtout quand c'est en proximité comme ça et que ça se passe à Amboise. C'est assez idéal, hein, puisque le métier de programmateur, c'est aussi de faire beaucoup de routes pour aller faire du repérage et d'aller à la rencontre des projets. Donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Moi, je suis venue pour découvrir cette initiative des jeux de diffusion qui est assez récente et que je ne connais pas, d'abord, mm-hmm. découvrir le dispositif, voir des spectacles, soit qui sont finis et qui sont présentés, soit des maquettes. Il y a des recherches de partenaires aussi, il y a des enjeux pour les compagnies sur ces journées. Et puis aussi croiser d'autres collègues programmateurs, croiser des équipes qui peut-être ne présentent pas de projet, mais qui sont présentes et qui ont des actualités à partager.
Mm-hmm. Pour vous ?
Pour moi, je dirais que l'avantage, c'est vraiment de pouvoir cumuler plusieurs spectacles sur une ou deux journées. En tant que programmatrice, c'est vrai qu'on est assez sollicité par plusieurs compagnies pour venir voir des sorties de résidence avec des présentations de spectacles. Là, c'est sur une journée. C'est des spectacles, moi, qui, pour certains, m'intéressaient déjà d'aller voir en individuel. Donc là, il y a plusieurs spectacles qui m'intéressent. En travaillant actuellement sur la programmation 2022, on est vraiment dans l'idée de trouver des spectacles pour programmer sur 2022. Donc c'est vrai que là on est sur un vivier d'artistes et c'est plutôt intéressant, même si ça cible pas tout le monde, mais en tout cas ça peut quand même donner des idées, des axes de travail pour mettre en place une programmation sur 2022.
Est-ce que les spectacles que vous allez voir aujourd'hui et demain sont des spectacles qui seront susceptibles d'être programmés assez rapidement, c'est-à-dire soit à la rentrée en septembre 2022? Ou alors, est-ce que c'est compliqué? Parce que j'imagine qu'en ce moment, il y a beaucoup de reports, il y a eu à cause du Covid. Comment ça se passe? Est-ce que ce sont des spectacles que vous allez voir aujourd'hui qui vont pouvoir être programmés assez rapidement?
Alors, si je parle pour la communauté de communes Gâtine-Choisy, Pays de Racan, il y a une partie de la programmation qui a été reportée, une partie qui est maintenue et quelques spectacles, probablement comme pour Amboise, annulés. Mais les spectacles que moi je viens voir dès maintenant, c'est évidemment pour mettre dans la programmation 2022. Ouais.
Mmh. Et pour
Oui, alors pour nous, on ne réfléchit pas tout à fait en année civile, mais en saison.
Oui.
Donc la saison 21-22, ça y est, elle a été validée avec les élus, elle est en route, on va travailler sur les supports de communication. Elle est constituée de pas mal de reports, de projets qu'on n'a pas pu faire. Il y a quelques ouvertures sur des nouvelles propositions. Mais en effet, il y a un peu un effet inévitable d'embouteillage qui fait qu'il y a des spectacles, y compris qu'on voit là ou qu'on a vu même il y a longtemps, qui pour l'instant n'auront pas de visibilité parce qu'on ne peut pas tout multiplier. Donc il faut se projeter à plus long terme.
C'est compliqué justement en ce moment de faire, d'être programmatrice culturelle, en tout cas d'arriver à constituer une programmation pour une saison.
Non, c'est pas compliqué. Après, il y a quand même. Moi, j'ai pas eu l'impression non plus de complètement perdre le contact avec les équipes pendant cette période et cette crise. Hein. D'abord, les répétitions étaient encore permises. Il y a eu beaucoup de résidences, il y a eu des présentations de projets. Donc, on était sollicité. Le contact, il a été maintenu avec les équipes qui présentaient les projets. Sans compter qu'on voit habituellement aussi beaucoup beaucoup de choses. Donc on a un peu de la matière si on a envie de construire les projets, mais bien entendu, il faut qu'on colle aux actualités des équipes, etc. Et donc, il y a eu ce temps de pause qui fait encore une fois que les choses vont se décaler dans le temps. Mm-hmm. Mais enfin, en tout cas, moi, personnellement, la matière, elle est là. C'est l'espace qui manque plus que la matière.
Mm-hmm.
Oui, moi je rejoins tout à fait cette idée, c'est-à-dire que même si la culture a été en pause d'un point de vue politique et qu'on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, en fait dans les coulisses il y a quand même des choses qui ont continué de se faire. Il y a eu toujours du soutien aux artistes et effectivement il y a eu du lien qui a été maintenu malgré tout parce qu'il fallait que ça existe et que c'était encore possible. Donc il y a eu des accueils de résidence, il y a quand même eu des choses qui se sont faites avec des publics scolaires. Voilà, ça, il y a eu une pause vraiment visuelle, mais dans les coulisses, il y a quand même des choses qui ont continué de vivre et d'exister.
Mm-hmm. Pour en revenir à la journée d'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu des choses intéressantes, justement, des choses qui pourraient être susceptibles de rentrer dans dans votre programmation culturelle ?
Alors, moi, précisément, pour la communauté de communes, pardon, j'avais ciblé les frères Scopitone avec leur caravane parce que je trouvais le concept très sympa. Nous, à la communauté de communes, on a une salle de spectacle, mais on a aussi une volonté de délocaliser les événements sur le territoire des 19 communes. Donc, cette forme comme ça qui se déplace d'une caravane qui peut être itinérante et puis traverser les villages et proposer un spectacle quand même assez sympa, moi, ça m'avait attirée. Donc, je suis venue précisément pour voir ce spectacle-là. Et puis je viendrai voir un autre spectacle demain. Voilà, j'ai pas participé aux deux jours, même si ça aurait été un vrai plaisir, mais après j'ai sélectionné un peu par manque de temps. Voilà.
Mm-hmm. Est-ce que justement, peut-être pour le futur, en tout cas les prochains mois, est-ce que vous, en tant que programmateur culturel, vous repensez peut-être un peu les formes ou la façon dont vous allez choisir des spectacles ? Est-ce que tout ça, ça joue finalement sur les propositions que vous allez faire et sur les formes que vous allez choisir ?
Vous parlez du contexte nouveau ?
Oui, par rapport au contexte, par rapport...
Oui, peut-être qu'on réfléchira différemment. En tout cas, on a été obligé de le faire là, quand on a subi la fermeture des salles. Et par exemple, avec quelques équipes, un spectacle qui devait se présenter, être présenté en particulier devant des scolaires dans une salle fermée, on l'a transformé en échange de manière constructive avec les artistes. Et on a proposé de faire une tournée dans les écoles. Mais ça veut dire que la forme peut s'adapter ou peut se prêter, oui. Que tout le monde est d'accord, on construit ensemble. On a été mis devant ces questions-là. Mm-hmm. Mais peut-être qu'il y a d'autres questions qui se poseront sur la façon dont on travaille, sur la temporalité.
Mm-hmm. Moi, je trouve que ça me donne encore plus envie de travailler vraiment avec des artistes et des compagnies proches du territoire. En fait, c'est vrai que, par exemple, sur cette programmation, on a des têtes d'affiches qui ont été programmées avec des boîtes de production. Et aujourd'hui, une fois que la crise est passée, j'aurais peut-être plus envie vraiment et encore davantage de défendre des compagnies
de proximité.
Du département ou de la région. Plutôt que de programmer des artistes qui tourneront de toute façon sans nous. Mm-hmm. Voilà, c'est plus de soutenir sur le plan local.
Est-ce que les spectacles aussi de proximité ont peut-être plus d'avenir, j'entends, dans le sens où les jauges sont limitées, donc il y aura de moins en moins de public, en tout cas pour le moment. Est-ce que du coup, ça peut peut-être, voyons le côté bénéfique, mais permettre peut-être de voir des spectacles dans des formes plus intimistes, avec plus de proximité?
C'est ça, et puis c'est vrai que sur des compagnies qui sont du territoire, déjà on réduit les coûts aussi, hein. Mine de rien, on n'a pas l'hébergement, le transport, en tout cas c'est moindre, et ça ne veut pas pour autant dire qu'on lésine sur le travail et la qualité de la création artistique, donc voilà, ça recrée du lien pour moi.
Oui, oui, Elisa.
Alors, par curiosité, mesdames, est-ce que vous voudriez chacune nous en dire plus sur le public pour lequel vous construisez une programmation culturelle ? Parce que j'imagine que, selon votre territoire, le public n'est pas le même et vos attendus, vos exigences ne sont pas les mêmes non plus. Est-ce que chacune, vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors on construit une programmation pour le public et aussi en fonction des feuilles de route politiques qu'on a devant nous. En l'occurrence, les grandes lignes un peu générales, c'est quand même l'accès à la culture pour tous. Donc on travaille avec la population des territoires, que ce soit les familles, les actifs. On travaille, nous, de près ici, avec tous les partenaires sociaux, culturels, éducatifs, avec des projets de médiation pour accompagner les diffusions. Mais il n'y a pas un public plus ciblé qu'un autre. On travaille sur le territoire intercommunal en partenariat avec la communauté de communes pour décentraliser aussi des projets et aller dans les salles équipées au plus près de la population. Voilà, le public, c'est très large, c'est tout le monde.
Justement, par rapport au public, pardon, vous vouliez peut-être... par rapport au public, c'est une question que j'impose un peu tout le monde, mais est-ce que vous avez peur justement de perdre du public ? Est-ce que il va falloir reconquérir le public ou certains publics?
Oui, enfin moi c'est une question que je me pose. Comment on va retrouver le public après cette longue pause? À la fin du premier confinement, il y a un an, quand les choses ont repris, les signes que nous donnaient les gens, c'était mais non, on veut pas de remboursement des billets, on attend, ça va se faire. Il y avait vraiment cette envie et puis voilà. Il n'y a pas eu de peur sur ce moment. Après, les choses ont duré et ce n'est pas pareil aujourd'hui. Donc, oui, on est passé à une phase où on a remboursé beaucoup de billets, la programmation évolue, etc. À la fois, je sens ce qu'on entend partout, l'envie des gens d'aller boire un coup en terrasse, aller au cinéma et je pense aller retrouver aussi les spectacles. Et à la fois, bah, faudra encore rassurer, la crise n'est pas finie. On a mis en place plein de protocoles sanitaires avant que tout s'arrête très vite en octobre. On a vu que ça fonctionnait, que les gens étaient aussi rassurés. Mais je pense que ça va être un travail de longue haleine pour continuer et peut-être aller rechercher à nouveau le public qui s'est plus mis devant les écrans aussi. Et voilà, et le spectacle vivant, bah, il doit être vivant, c'est du sensible, c'est du partage en live. Et oui, peut-être qu'on aura un travail de terrain à faire.
Si je peux ajouter quelque chose en complément, c'est que je pense qu'il y a certains publics qui seront plus frileux à retrouver les salles de spectacle. À mon avis, par exemple, les familles seront très contentes de pouvoir retourner dans les salles avec leurs enfants. Et puis, on a peut-être un public plutôt vieillissant qui, lui, sera plus frileux à revenir dans les salles. Mm-hmm. Voilà, je pense qu'effectivement, on aura besoin de remotiver certaines cibles et puis d'autres qui, elles, seront vraiment aux aguets dès la réouverture. Mm-hmm.
Alors, puisqu'on est à la Charpente et à Amboise, on va en profiter pour vous demander, Karine, s'il y a des choses qui seront programmées un peu cet été ici à Amboise, des spectacles, des concerts.
Il y a un programme d'été qui est prêt et qui se déroulera, oui, plutôt dans l'espace public, en ville, dehors, gratuit pour les familles, etc., comme on a l'habitude. De le faire. Enfin, en tout cas, oui, on est prêt à repartir et proposer plein de choses en complémentarité des initiatives aussi, des autres initiatives locales et d'un programme culturel avec les associations, avec tous nos partenaires.
Peut-être une date pour un premier spectacle, ou c'est encore un peu trop tôt, pour en parler ? Une première date d'un premier spectacle
En fait, par exemple, il y aura un premier rendez-vous en lien avec la manifestation du bouquet Mal-étrenne. Voilà, par exemple.
D'accord, ok. Vers fin mai, en principe, 30 mai, enfin,
début
juin. Voilà. Du côté de chez vous, est-ce qu'il y a des choses aussi qui vont être mises en place assez rapidement, peut-être ?
Alors, nous, sur le mois de juin, on a un événement de 3 jours qui était déjà installé, qui va se poursuivre, sur lequel, en fait, on avait du tout public qui est rebasculé en médiation. On fait venir un opéra bus, donc qui sera sur le territoire le 23, 24 et 25 juin.
D'accord.
Voilà. Là, on est sur un public scolaire et centre de loisirs, puisqu'à la base, le projet touchait aussi les personnes en maison de retraite et EHPAD, mais voilà. Vu le contexte, on a changé la cible. Et sinon, pendant l'été, au mois de juillet et août, il y aura des cinémas de plein air sur l'ensemble du territoire. Voilà, histoire de redonner un petit peu de soupape et de liberté à travers des événements plutôt ciblés vraiment famille. Mmh.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
À toutes les deux d'être venues nous parler donc de votre travail de programmatrice culturelle. Cette émission se termine. Merci à Mélissa de Radio Campus. Merci également à David Marion de Radioactive d'avoir fait la technique avec nous. On se retrouve bientôt, j'espère, pour un prochain plateau.
Et on pourra bientôt inviter nos auditeurs respectifs à réécouter cette émission en podcast sur notre site Radio Active et Radio Campus Tour. Peut-être qu'on peut rappeler les invités qu'on a oui. eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. Merci à Cécile Garraud du Cinavire Régional, à Laurence de la Charpente, Amélie Linard de la compagnie Jabberwock. Il me semble qu'il y avait d'autres invités. Est-ce que tu veux nous les rappeler également?
Alors merci aussi à l'ensemble Ptix, pardon, à Laurent Priou de la compagnie Barocco, à Nathalie Pelestalo du Moulin à Parole, à Ida Tesla pour la compagnie Pipo, à Michel Barrio pour la compagnie Ophélie, et je crois qu'on a fait le tour.
Merci à tous et à bientôt sur nos ondes.